Il est midi et demi, place au journal de la mi-journée sur Europe 1 avec vous Fabienne Lemoelle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans ce journal de la mi-journée. À la une, un policier entre la vie et la mort depuis cette nuit. Il a été percuté par un fourgon alors qu'il tentait d'intercepter lors d'une opération à Bron dans la région lyonnaise ce véhicule. L'aveu de Téhéran, aveu terrible, c'est bien un missile iranien qui a battu le Boeing ukrainien. Une faute impardonnable et une grande tragédie, a dit le président iranien cette nuit après 3 jours de déni.
Ils font très rapidement amende honorable, de manière à couper l'herbe sous le pied de critiques qui auraient pu être beaucoup plus violentes de la part de pays occidentaux.
Les syndicats attendent toujours la lettre d'Édouard Philippe avec ses dernières propositions sur la réforme des retraites. Selon les informations d'Europe 1, cela pourrait passer par un compromis autour de l'âge pivot, un âge pivot dont la CFTC ne veut plus entendre parler.
Pour nous, il est inconcevable que cet âge pivot puisse démarrer dès 2022 et que la décote soit pérenne.
Il y a 5 ans, 4 millions de personnes descendaient dans la rue à travers toute la France pour une grande marche républicaine après l'attentat de Charlie Hebdo. Le chercheur Hugo Micheron sera mon invité. Il vient de publier Le djihadisme français aux éditions Gallimard. Il a rencontré de nombreux djihadistes incarcérés en prison. Nous lui demanderons justement si la France a les moyens de prendre en charge ces détenus qui sont actuellement aux mains des Kurdes, alors que la garde des Sceaux dit ce matin dans Libération que leur rapatriement est la seule solution. Le journal des sports avec les volleyeurs français qui ont décroché leur ticket pour les JO de Tokyo. La météo, ça s'annonce calme pour aujourd'hui et demain. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Nous embarquerons dans la cabine d'un conducteur RATP pour voir comment il vit cette grève.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Un policier donc entre la vie et la mort depuis cette nuit, voilà ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, alors que ce policier a été percuté par un fourgon cette nuit dans la région lyonnaise. Le fonctionnaire était en intervention pour intercepter le véhicule. Et nous sommes avec Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Qu'est-ce qu'on sait précisément de ce qui s'est passé cette nuit, Guillaume ?
Alors, à l'origine, les policiers de la Sûreté départementale étaient en surveillance dans une enquête sur des vols de fret, des vols de marchandises. Ils étaient sur l'aire de l'île d'Abo sur l'autoroute A43 lorsqu'ils ont vu des suspects commettre ces vols et reprendre la route à bord d'une Mégane et d'un fourgon direction Lyon. Une trentaine de kilomètres plus loin, vers 2h du matin, d'autres policiers ont mis en place un barrage pour les intercepter. Deux véhicules en travers d'une bretelle de sortie du périphérique lyonnais à hauteur de Bron. Mais quand le fourgon seul est arrivé, il a ralenti, il a fait marche arrière, pris son élan, puis accéléré, d'après le récit des policiers. Il a percuté les deux voitures et fauché un fonctionnaire de 45 ans, gardien de la paix à la Sûreté départementale du Rhône. Plus tard dans la nuit, ce fourgon a été retrouvé dans une cité de Bron, vide de ses occupants qui sont activement recherchés, tandis que la Mégane suspecte a été interceptée à 3h25 par les policiers de la BAC. Son conducteur, âgé de 19 ans, est en garde à vue. L'enquête se poursuit pour retrouver les autres suspects. C'est la police judiciaire de Lyon qui mène les investigations. Le policier renversé, lui, est dans le coma et plusieurs sources nous confirment qu'il risque très certainement de ne pas survivre à ses blessures.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Le terrible aveu est tombé cette nuit. C'est bien un missile iranien qui a causé la perte du Boeing ukrainien, entraînant la mort de 176 personnes qui se trouvaient à bord. Avion donc abattu mercredi. C'est l'armée iranienne qui a reconnu cette erreur tragique, alors qu'hier encore Téhéran affirmait le contraire, Marion Gauthier.
Oui, cet avion n'a pas été touché par un missile. C'est ce qu'affirmait hier le président de l'aviation civile iranienne. Ce matin, l'armée reconnaît une erreur humaine et ce midi, un général des gardiens de la Révolution endosse la responsabilité totale de cette catastrophe. L'un de ses soldats a pris l'avion civil ukrainien pour un missile de croisière. Il n'a eu que 10 secondes pour décider. Quelques minutes plus tard, l'appareil s'écrasait à l'ouest de Téhéran. Regrets, excuses et condoléances du côté iranien, mais aussi mise en cause de l'aventurisme des États-Unis qui commanditait le 3 janvier l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani et déclenchait la crise avec l'Iran. Pour Frédéric Ancel, spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient, cet épisode marque la fin de l'escalade.
De toute façon, il eût été au bout d'un moment ridicule de nier. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font très rapidement amende honorable, de manière à couper l'herbe sous le pied de critiques qui auraient pu être beaucoup plus violentes de la part de pays occidentaux, y compris européens. Téhéran a cruellement besoin aujourd'hui, sinon d'un soutien, en tout cas d'un minimum de compréhension de la part des alliés des Américains dans sa confrontation avec Washington.
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a d'ores et déjà réclamé une enquête complète et approfondie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé que les coupables soient traduits en justice et que des compensations soient payées. Éviter la répétition de pareils accidents, priorité affichée par l'ayatollah Ali Khamenei ce midi. Le guide suprême d'Iran a ordonné de remédier à toute négligence.
Marion Gauthier.
1036, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
Va-t-on vers une sortie de la grève qui dure depuis 38 jours maintenant contre la réforme des retraites? Édouard Philippe a promis des propositions concrètes dans une lettre qu'il doit faire parvenir dans la journée aux syndicats. Et selon les informations d'Europe 1, ce compromis tournerait autour de ce fameux âge pivot qui cristallise bon nombre de tensions avec les syndicats. Aurélien Fleureau.
Oui, c'est ce qui est en train de se dessiner. Le gouvernement devrait accepter de supprimer pour le moment l'âge pivot et proposer 7 accords, notamment aux syndicats dits réformistes. À vous de trouver les 12 milliards d'euros nécessaires pour l'équilibre du régime de retraite d'ici à 2027. Et cet objectif d'équilibre ne sera pas négociable. Alors pour l'instant, les différents interlocuteurs du gouvernement, syndicats et patronats, n'ont toujours pas reçu les propositions d'Édouard Philippe. Elles doivent arriver dans la journée, hein, vous l'avez dit. Donc là, chacun guette ses emails, ses SMS. Ce sera donc aux partenaires sociaux, dans le cadre de la conférence de financement qui vient d'être lancée, de trouver en quelques semaines la bonne formule. L'idée, c'est de caler ces discussions en parallèle de l'examen du projet de loi sur les retraites au Parlement, et puis d'intégrer la solution trouvée à la fin de l'examen du texte. Ce qui serait donc un début d'issue de sortie de crise, avec pour l'instant ni gagnant ni perdant. En revanche, si les partenaires sociaux n'y arrivent pas, l'État pourrait décider de mettre quand même en place ce fameux âge pivot.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Alors justement, à quel prix ce compromis autour de l'âge pivot est-il acceptable pour les syndicats? Pour la CFTC, justement, pas question de conserver cet âge pivot sous quelque forme qu'il soit. C'est ce que Cyril Chabanier, président de la CFTC, a expliqué à Hélène Terzian.
Pour qu'il y ait compromis, en tout cas pour nous, la CFTC, c'est des modifications dans l'âge pivot qui a été présenté. Pour nous, il est inconcevable que cet âge pivot puisse démarrer dès 2022 et que la décote soit pérenne. La deuxième chose, c'est revoir aussi la copie au niveau des recettes. Aujourd'hui, le gouvernement nous parle de déficit en ne parlant que du côté dépenses. Sauf que depuis des années maintenant, les différents avantages fiscaux et la loi Pacte ont fait en sorte que les cotisations ont diminué. Et donc, il faut aussi avoir une vision côté recettes. Enfin, troisième chose pour qu'il y ait un compromis, c'est revoir la pénibilité. Tout un secteur comme les commerces et les services, par exemple, ce sont des millions de personnes. Il n'y a aucune personne dans aucun de ces secteurs qui peut bénéficier des critères de la pénibilité qui sont actuellement reconnus. C'est difficilement acceptable.
Cyril Chabanier, président de la CFTC, avec Hélène Terzian. À suivre, il y a 5 ans, souvenez-vous, plus de 4 millions de personnes, 2 millions rien qu'à Paris, descendaient dans la rue pour dire non au terrorisme après l'attentat du Charlie Hebdo. L'occasion pour la population de dire merci aux policiers. Et des scènes bien loin aujourd'hui d'être imaginables après le mouvement des Gilets jaunes.
Il est midi 40, le journal La Suite sur Europe 1 et avec vous Fabienne Lemoyle.
Et souvenez-vous, ces images, il y a 5 ans, le 11 janvier 2015, une véritable marée humaine qui descend dans la rue pour dire non au terrorisme. Une marche républicaine en réponse à l'attentat de Charlie Hebdo avec près de 4 millions de personnes à travers toute la France. On se souvient aussi de ces manifestants embrassant les policiers pour les remercier d'être en première ligne face aux attaques terroristes. Des scènes qu'on n'imaginerait plus aujourd'hui après le mouvement des Gilets jaunes et l'interdiction.
11 janvier 2015, une colonne de véhicules de CRS progresse sous les applaudissements appuyés des manifestants. L'image est saisissante. Elle s'ajoute à celle de cet homme sorti du rang qui embrasse un policier et à ces jeunes qui remercient les forces de l'ordre.
Hommage à la police, respect et bravo quoi.
Je suis fier de mon pays, je suis fier de la France, la police du rassemblement, ouais.
5 ans après, les étreintes sont devenues des affrontements avec l'an dernier les manifestations des Gilets jaunes souvent émaillées de violence.
Même si on est pacifiste, ils chargent, ils gazent, ils font du flashball.
Des huées et slogans anti-flics qui tranchent avec l'esprit de 2015.
Tout le monde déteste la
et que l'on entend encore aujourd'hui. Simon a marché pour Charlie de République à Nation, a soutenu lui aussi les forces de l'ordre, mais il les fuit aujourd'hui lorsqu'il bat le pavé contre la réforme des retraites.
Une manifestation qui sont plus sur le mode de la revendication. On a la sensation d'utiliser la police comme un outil de répression et dans un cas, on se sent aidé, protégé, solidaire. On reconnaît le travail qu'ils sont capables de faire et dans l'autre cas, en fait, on le voit juste comme un ennemi, un espèce de mur qui est en face de soi et on ne peut pas franchir.
11 janvier 2015, 11 janvier 2020, les sentiments s'inversent et comme un symbole, le sens du parcours aussi. À Paris aujourd'hui, une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites ralliera Nation à République.
Hélène Terzian, notez que dans quelques minutes, je reçois le chercheur Hugo Micheron. Il vient d'écrire « Le djihadisme français ». On va revenir avec lui sur l'onde de choc de ces attentats sur la société française. On lui demandera, alors qu'il a interrogé près de 80 djihadistes incarcérés dans les prisons françaises, ce qu'il pense des dernières déclarations de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui dit ce matin dans Libération qu'il n'y a pas d'autre solution que de rapatrier en France les djihadistes français actuellement détenus par les Kurdes en Syrie.
Le journal des sports.
Avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Fabienne.
20e journée de Ligue 1 qui n'est pas terminée, mais on sait déjà que Marseille a fait une très bonne affaire hier soir.
L'OM a battu Rennes 1-0 grâce à un but de Kevin Strootman dans les dernières minutes. Marseille consolide sa deuxième place avec 8 points d'avance désormais sur les Rennais 3e. Même si les Bretons comptent un match en moins, les Marseillais peuvent rêver de la Ligue des Champions. Mais ne dites pas à Valentin Rongier que ça plane pour lui. Le Marseillais préfère garder les pieds sur terre.
Dans l'état d'esprit, on est dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début de la saison. Et même si ce soir on a été mis en difficulté par cette équipe de Rennes, tous les feux sont au vert. Mais voilà, il ne faut pas qu'on s'enflamme, on dit toujours la même chose, mais c'est vrai. Il reste encore beaucoup, beaucoup de matchs. Et Rennes a encore un match en retard, il y a d'autres équipes qui sont là aussi. Mais c'est un très bon coup ce soir. Et oui, ce qu'on va retenir, c'est la solidarité du groupe à l'image de Kevin qui me remplace et qui marque le but victorieux.
Valentin Rongier au micro de Stéphane Beignet.
6 matchs au programme de cette 20e journée aujourd'hui.
Bordeaux reçoit Lyon à 17h30. 5 autres matchs débuteront à 20h à suivre dans le multiplex d'Europe 1 ce soir. Toulouse-Brest, Angers-Nice, Nîmes-Reims, Amiens-Montpellier et Metz-Strasbourg. À l'étranger, l'arrivée d'Olivier Giroud à l'Inter Milan se précise, même si rien n'est encore signé. Le joueur aurait trouvé un accord avec le club italien, mais celui-ci doit encore s'entendre avec Chelsea, propriétaire du joueur français.
La Coupe d'Europe de rugby, une 5e journée peut-être décisive pour Clermont.
Les Auvergnats reçoivent l'Ulster. En cas de victoire cet après-midi, les Clermontois pourraient faire un petit pas vers les quarts de finale, Simon Rubin.
Ah ben c'est le moment de sortir du bois pour Clermont. Après un début de Coupe d'Europe laborieux, les Clermontois sont revenus dans le coup. Ils sont deuxièmes de leur groupe, un petit point derrière l'Ulster. Et on comprend dès lors pourquoi le match du jour est capital. Une victoire et les Auvergnats s'ouvriraient les portes des quarts de finale. Le minimum pour un club de cette stature. Et personne ne s'y est trompé. Le match va bien se jouer à guichet fermé cet après-midi. La SM qui avait perdu au match aller doit saisir sa chance. C'est l'équipe la plus prolifique en termes de points, en termes d'essais marqué. Il faudra resserrer les rangs défensivement, mais si Clermont veut enfin lancer sa saison, c'est aujourd'hui qu'il faut frapper fort.
Clément Ulster, coup d'envoi à 14h. À 16h15, les Irlandais de Connacht accueilleront Toulouse et Montpellier affrontera Gloucester à 18h30.
Et les volleyeurs français vont bien voir le Japon, puisqu'ils ont décroché leur ticket pour les Jeux Olympiques.
Ils ont battu l'Allemagne chez elle à Berlin 3-0. Les Français remportent le tournoi de qualification olympique et peuvent effectivement déjà se préparer à disputer les Jeux. Un bonheur pur pour le sélectionneur Laurent Tilly.
C'est tellement miraculeux, c'est tellement fantastique pour les joueurs. Ces Jeux-là, on y pense depuis 4 ans. Là, on digère, on verra les choses en son temps. Commencez pas à me parler d'exploits à Tokyo, on a fait un exploit ici. Alors, merci.
Voilà, merci Laurent Tilly, au micro d'Hélène Cole, que l'on remercie aussi.
Merci beaucoup Christophe Lamarre, que l'on remercie aussi. Il nous reste à voir la météo avec le temps que nous réserve ce samedi. Eh bien, ça s'annonce calme aujourd'hui et demain, Valérie Darmon.
Absolument Fabienne, grâce à l'anticyclone. Dans l'après-midi, les nuages bas auront juste du mal à se dissiper dans l'est de la Champagne, au sud de la Bourgogne, dans les plaines et dans les vallées et sur le reste de la France. Les conditions météo qui sont agréables avec un soleil qui domine. Vous en profitez par endroits déjà depuis ce matin, notamment sur le sud-est ou encore dans le sud-ouest. Dans le nord-ouest, en revanche, le long de la Manche, le ciel est un petit peu plus voilé et le vent souffle à 50 km/h en rafale. Demain dimanche, retour d'un temps faiblement perturbé dans le nord-ouest jusque sur le bassin parisien. Quelques pluies faibles et éparses vont circuler de la Bretagne et du Pays Nantais au Nord-Pas-de-Calais et sur le reste du pays. Le temps restera calme et sec. Le soleil brillera donc des Alpes et des Pyrénées à la Méditerranée. Les températures sont pile dans les normales de saison avec des valeurs cet après-midi entre 6 à Rodez et 15 degrés à Marseille.
Et puis en montagne, Valérie, là aussi c'est du beau temps.
Et il fait tout aussi beau sur les reliefs que pour le reste de la France, notamment sur la moitié sud, avec un temps très très ensoleillé depuis ce matin jusqu'à ce soir sur le massif central. De quoi profiter de la petite couche de neige fraîche tombée dans la nuit de jeudi à vendredi, 10 cm aux alentours de 1400 mètres. Superbe journée aussi en Haute-Savoie, en Savoie, en Isère, avec des températures aux alentours de 5 degrés vers 1000 mètres. Et même chose sur les Pyrénées, avec un temps très bien ensoleillé, un vent variable, plutôt faible, et avec des valeurs entre 5 et 7 degrés.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, il y a 5 ans, je vous le disais dans le journal, plus de 4 millions de personnes, 2 millions à Paris, descendaient dans la rue pour dire non au terrorisme après l'attentat de Charlie Hebdo. Démonstration de force de la société française qui découvrait avec effroi le terrorisme islamiste. Dans un livre très éclairant, Le djihadisme français, le chercheur Hugo Micheron décrit ces réseaux qu'on n'a pas forcément voulu voir et explique pourquoi autant de Français ont pris le chemin de la Syrie. Il est mon invité dans un instant.
Il est 12h50 et le journal de la mi-journée se poursuit avec votre témoin de la semaine, Fabienne Lemoyle.
Et il y a 5 ans, plus de 4 millions de personnes, 2 millions rien qu'à Paris, descendaient dans la rue pour dire non au terrorisme. Une marche républicaine en réponse à l'attentat de Charlie Hebdo, démonstration de force d'une société et qui soudain prenait conscience très douloureusement de l'étendue des réseaux djihadistes français. Bonjour Hugo Micheron.
Bonjour.
Vous venez d'écrire un livre particulièrement édifiant, je dois dire, Le djihadisme français chez Gallimard, fruit de très nombreux entretiens avec plus de 80 djihadistes français incarcérés en prison en France, dont certains ont depuis d'ailleurs été libérés. Un travail qui dit beaucoup sur la prise de conscience trop tardive, écrivez-vous, de la société française. Déjà une première question, Hugo Micheron, pourquoi la France a-t-elle fourni une telle cohorte de djihadistes à l'État islamique? Je vais rappeler un chiffre, plus de 1500 au plus fort des avancées de Daesh en 2015, et pas de la chair à canon, comme vous le dites dans votre livre, mais vraiment des pionniers, des cadres éminents, je pense particulièrement aux frères Klein, voix de la revendication des attentats du 13 novembre.
C'est vrai, la France a fourni 40% du total des djihadistes européens, donc elle est la première exportatrice, si j'ose dire, de djihadisme en Europe, bien que la Belgique par tête soit loin devant. Alors la raison à ça, c'est que finalement les réseaux djihadistes en France sont anciens. Il y a un passé du djihadisme, il y a une histoire du djihadisme français qui nous ramène à la fin des années 90 et il y a eu des territoires. Donc il y a une sorte d'histoire géographique du djihadisme français qui permet d'expliquer tout ça et qui en fait s'est construit sur 20 ans. Donc les départs en Syrie à partir de 2012 et jusqu'en 2016 sont l'aboutissement de dynamiques très anciennes en France qui ont commencé 15 ans plus tôt.
Et justement, Hugo Micheron, vous dites 2012, la prise de conscience en France, et 2015, l'attentat de Charlie Hebdo, avec effroi, mais 2012, parce que c'est la bascule de Mohamed Merah, et vous dites, là, on a parlé d'un loup solitaire, on est passé totalement à côté.
Oui, une partie de la hiérarchie policière en France, en mars 2012, au moment des attaques de Montauban, les a qualifiées d'un tueur isolé. La réalité, c'est qu'en fait, Merah était l'aboutissement de dynamiques qui se produisaient à Toulouse depuis 12 ans. Notamment, il est le pur produit du salafisme djihadisant dans la cité des Izards, au nord de Toulouse. Et Mohamed Merah avait pour mentor un certain Sabri Essid, qui est mort en Syrie en 2018 et qui est actif dans les filières djihadistes depuis le début des années 2000. Donc en fait, l'affaire Merah aurait dû révéler la nature du djihadisme français, alors qu'en fait elle a été analysée comme un vulgaire fait divers et nous a empêché de comprendre l'évolution du djihadisme français, et donc les gammes allaient se rejouer de façon encore plus violente et nous sauter à la figure, si j'ose dire, avec les attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercacher.
La question que tout le monde se pose aujourd'hui, Hugo Micheron, c'est « et maintenant ?» Et c'est ça qui est passionnant dans votre livre, puisque vous avez interrogé, je le disais, des dizaines de djihadistes incarcérés, avec d'ailleurs parfois de plus en plus d'hostilité, hein, jusqu'en 2016. On a entendu Nicole Belloubet ce matin qui dit que la seule solution pour les détenus djihadistes français qui sont aux mains des Kurdes actuellement en Syrie depuis la chute de l'État islamique, c'est de les rapatrier en France. Est-ce que la France a les moyens de prendre en charge en prison ces hommes ?
Alors quand on voit la difficulté de gestion d'un djihadiste, déjà la réponse serait plutôt non. Je le décris abondamment dans la dernière partie de l'ouvrage, c'est-à-dire la façon dont en fait les djihadistes exploitent les prisons pour reconfigurer, se reconsolider. Ils ont acté leur défaite sur le terrain moyen-oriental et du coup l'espace de recomposition de la mouvance djihadiste, c'est les prisons, avec beaucoup de
vous
complexité.
Vous dites même, vous employez des termes, vous dites la prison, c'est l'ENA du djihad. En gros, c'est là qu'on se reforme. Ils le disent clairement, alors vos interlocuteurs, vos entretiens.
Absolument, et je l'analyse en détail. On croit trop facilement que la prison est une impasse dans laquelle le djihadisme finirait sa course, alors que
un cul-de-sac,
alors que pour beaucoup de se rencontrer, au contraire, ils considèrent que c'est une étape dans leur carrière de djihadiste. Et il faut bien avoir en tête que, de ce point de vue-là, eux, ils vont être enfermés, quoi, 8 ans, 10 ans, 12 ans, mais ils sont regroupés. Et quand ils partent en Syrie, le but, c'était de se regrouper. Et donc, de ce point de vue-là, il s'agit de comprendre ce qui se passe en prison. Et à vrai dire, pour l'instant, on a l'impression que la prison est un trou noir, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Moi, je m'y suis rendu, j'ai enquêté et j'ai mis tout ça en relation avec ce qui se passait en Syrie et en France depuis une quinzaine d'années.
Et justement, il y a un mot qui revient très souvent chez vous, Guillaume Micheron, au fil de votre livre, c'est la cécité. On n'a pas voulu voir. Est-ce qu'on voit en ce moment ce qui se passe clairement en prison ?
Oui, je pense que ça y est, on a rattrapé en partie notre retard sur les djihadistes, parce que jusque-là, ils bénéficiaient d'une asymétrie, c'est qu'ils nous connaissaient beaucoup mieux que nous les connaissons, et pour une bonne raison, c'est qu'ils sont français pour la plupart, passés par l'école de la République par ailleurs, et du coup, il était nécessaire de produire de la connaissance. Mais pour ça, ça voulait dire réinvestir le terrain, le passer au crible de l'analyse universitaire, pour produire un diagnostic et essayer de refaire société autour d'une question aussi clivante que le djihadisme français. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Je pense qu'en matière de djihadisme, l'enjeu est devant nous. Les attentats sont derrière nous, mais la reconstruction et la reconsolidation du djihadisme est devant nous. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais été aussi nombreux. Le djihadisme, c'est x100 entre 1990 et 2015. Ça donne une idée de ces dynamiques. Donc on pourra résoudre ce problème si on arrive premièrement à comprendre ce qu'ils font et ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train d'essayer de passer sous le radar, notamment en reconsolidant un certain nombre de noyaux. Il faut faire très attention à la multiplication d'écoles privées hors contrat, avec ce djihadiste qui m'explique dans le livre, et c'est analysé, que leur but pour eux finalement c'est d'étendre leur rang en éduquant notamment directement leurs enfants dans la doctrine djihadiste, et ça c'était aussi le projet de Daesh.
Il va y avoir justement le problème de tous ces enfants qui vont rentrer justement de Syrie aussi.
Oui, mais on peut en faire sens en fait, c'est ça.
Et qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'on leur a mis dans le crâne.
Oui, et j'ai envie de dire que le travail avec les enfants et les mineurs sera délicat mais beaucoup plus facile quelque part à gérer, et on en a les moyens, mais à condition de ne pas s'aveugler. Il faut sortir d'une double posture, si j'ai envie de dire, dans lequel le débat public jusque-là est enfermé. Le premier, c'est le déni. Voilà, moi, j'ai essayé vraiment de faire aucun compromis avec les faits. Et l'autre tenant, si j'ai envie de dire, la tenaille, c'est l'hystérisation. En fait, on peut poser un diagnostic qui est quand même inquiétant, parce que c'est une matière inquiétante.
Et inquiétant quand on entend ce matin qu'ils vont revenir effectivement en France, et on peut comprendre pourquoi, puisqu'effectivement, ouais, les Kurdes n'ont pas les moyens effectivement de gérer ces détenus en Syrie, donc...
Oui, c'est une matière extrêmement complexe et les Kurdes, en fait, sont à l'heure actuelle plus ou moins dépendants de la protection de Bachar el-Assad. Ça serait évidemment une très mauvaise perspective pour la sécurité de la France que 50 de ces djihadistes passent aux mains de Bachar el-Assad. Donc, on a la possibilité de faire sens, mais encore faut-il faire ce travail. Là, je crois que c'est terminé. On ne peut plus basculer dans le déni en permanence. Et par contre, on a du temps. On a du temps. On est seulement à l'an 5 de la prise de conscience. La France a quand même les moyens de répondre à cet enjeu. Il reste extrêmement minoritaire. Et donc, c'est un des éléments qui joue en notre faveur.
Merci beaucoup, Guillaume Micheron, d'avoir été avec nous ce midi à Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre qui est vraiment passionnant et que j'invite nos auditeurs à découvrir, le djihadisme français avec ce continuum quartier, Syrie, prison. Lecture très instructive aux éditions Gallimard. Et je rappelle que vous êtes chercheur à l'École normale supérieure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Vous le savez, nous poursuivons cette tranche d'information à 13h avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Nous allons embarquer à bord de la cabine d'un conducteur de métro pour voir comment il vit cette grève, et puis nous irons aussi en Irak, au cœur des milices pro-iraniennes, avec notre envoyée spéciale Gwendoline Debono, qui a pu rencontrer les chefs de ces milices. Reportage exceptionnel.
Europe 1, il est 13h01.
L'essentiel de l'info de ce samedi 11 janvier, Fabienne Lemoyle.
L'un policier entre la vie et la mort dans la région de Lyon, ce fonctionnaire de la sûreté départementale a été percuté cette nuit par un fourgon lors d'une opération à Bron. Le véhicule lui a foncé dessus vers 2h du matin avant de prendre la fuite. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a précisé que ce policier de 45 ans tentait d'appréhender ce fourgon dans le cadre d'une enquête pour vol de fret et vol à main armée quand il a été renversé. Le terrible aveu de Téhéran, c'est bien un missile qui a abattu un Boeing ukrainien entraînant la mort des 176 personnes qui se trouvaient à bord. Boeing a abattu mercredi matin, une erreur impardonnable et une grande tragédie, a dit cette nuit le président iranien Hassan Rouhani. Et il y a quelques instants, un général des gardiens de la révolution a pris la parole à la télévision iranienne pour endosser la responsabilité de cette catastrophe, expliquer que le missile avait explosé à côté de l'avion. Les syndicats attendent toujours la lettre d'Édouard Philippe dans laquelle il doit formuler ses propositions sur la réforme des retraites. Cela pourrait passer par des compromis autour de l'âge pivot si les syndicats trouvent les moyens de financer les 12 milliards manquants pour financer justement cette réforme des retraites. La garde des Sceaux pour un rapatriement des djihadistes français actuellement détenus par les Kurdes en Syrie. On en parlait un instant avec mon invité, le chercheur à l'École normale supérieure Hugo Micheron, déclaration ce matin de la garde des Sceaux Nicole Belloubet dans le journal Libération.
Merci Fabienne, on refera bien sûr un point sur l'info de ce samedi dans une heure à 14h sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.